Amis, bonsoir, bienvenue à tous. Alors maintenant, nous allons faire place à la conférence. C'est l'approche ésotérique de Noël. Mais avant, nous allons vous lire une lecture tirée d'un des derniers grands livres écrits aussi par Madame Blavatsky. C'est La Voix du silence qui est dédiée au petit nombre. Oh, mais que devrais-je entreprendre pour atteindre la sagesse? Ô sage, que ferais-je pour gagner la perfection? Cherche les sentiers, répond mon maître. Mais, ô l'ami, dit-il, sois d'un cœur pur avant de commencer ton voyage. Avant de faire ton premier pas, apprends à discerner le vrai du faux, le toujours fuyant du toujours durable. Par-dessus tout, apprends à séparer la science de tête de la sagesse de l'âme, la doctrine de l'œil de celle du cœur. En vérité, l'ignorance est comme un vase fermé et sans air. L'âme, comme un oiseau qui y est enfermé. Il ne gazouille pas, il ne peut remuer une plume. Le chanteur reste muet, engourdi, et se meurt d'épuisement. Cependant, même l'ignorance vaut mieux que la science de tête sans la sagesse de l'âme pour l'illuminer et la guider. Les semences de sagesse ne peuvent germer et croître dans un espace sans air. Pour vivre et récolter l'expérience, il faut au mental de la largeur, de la profondeur, et des pointes pour l'attirer vers l'âme diamant. Ne cherche pas ces pointes dans le royaume de Maya, qui est le royaume de l'illusion, mais plane au-delà des illusions. Cherche l'éternel et l'inchangeable sacre, qui est l'unique réalité. En te méfiant, des fausses suggestions de l'imagination, car le mental, qui est un instrument, est un miroir. Il amasse la poussière tout en reflétant. Il faut les douces brises de la sagesse de l'âme pour balayer la poussière de nos illusions. Cherche, ô débutant, à fusionner ton mental et ton âme. Fuis l'ignorance et fuis également l'illusion. Détourne ta face des tromperies du monde. Méfie-toi de tes sens, ils sont faux, mais à l'intérieur de ton corps, tabernacle de tes sensations, cherche dans l'impersonnel l'homme éternel. L'homme éternel nous renvoie à cet ego que nous sommes qui se réincarne de vie en vie. Et l'ayant trouvé, regarde en dedans, tu es Bouddha. Et voici un tout petit extrait d'Isis Dévoilée, le premier livre que Madame Blavatsky a écrit. Le motif de Jésus fut évidemment comme celui du Bouddha, de rendre un service bienfaisant à l'humanité en général, en produisant une réforme religieuse, capable de lui donner une religion de pure éthique, la véritable connaissance de Dieu et de la nature étant restée jusqu'alors uniquement aux mains des sectes ésotériques et de leurs adeptes. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et c'est une chose tout à fait remarquable, qu'il n'y a pas un seul mot dans ce qu'on appelle les Écritures sacrées prouvant que Jésus ait été considéré effectivement comme un Dieu par ses disciples. Ni avant, ni après sa mort, ils ne lui ont rendu des honneurs divins. Leur rapport avec lui était seulement celui de disciple et maître. C'est par ce nom qu'il s'adressait à lui. Le Dalai Lama, à Paris en 1996, parle de Jésus et voici ce qu'il dit. Pour moi, bouddhiste, Jésus-Christ fut soit un être pleinement éveillé, soit un bodhisattva de très haute résolution spirituelle. Maintenant, place à la conférence.
Alors, amis, Noël, c'est probablement la plus belle fête populaire de l'année. Alors, généralement, on décore la maison, on coupe un sapin, et on va le parler de guirlandes multicolores. Il faut savoir que dans l'ancienne Allemagne, eh bien, les païens avaient l'habitude de célébrer la fête solaire le même jour, le 25 décembre, et ils prenaient une branche de sapin ou de pin qu'ils décoraient aussi de parures brillantes. Et donc, on se rend compte que finalement, cette tradition maintenant devenue chrétienne de couper un arbre de Noël, un sapin, eh bien, elle fait écho, en fait, c'est un écho d'une tradition païenne. Alors, généralement, quelques jours avant Noël, quelques semaines aussi, toutes les villes sont illuminées de lumières multicolores. Et on a l'impression que toute cette lumière, à cette époque précisément de l'année où les jours sont les plus courts, eh bien, semble vouloir redonner vraiment cette lumière qui nous manque. Et en fait, c'est effectivement la période de l'année la plus courte parce que depuis le solstice d'été, c'est-à-dire depuis le 24 juin, chaque jour, l'ensoleillement perd une, deux, voire trois minutes. Et d'un point de vue allégorique, on pourrait dire que c'est l'annonciation de la mort du soleil. Mais bien heureusement, comme on le sait, à partir du 21 décembre jusqu'au 24 décembre, là, il n'y a plus de minutes en moins. Les jours et les nuits sont d'une durée fixe. Et à partir du 25 décembre, eh bien, le soleil montre qu'il va regagner du terrain sur les ténèbres. Dans l'hémisphère nord, donc, c'est évidemment la renaissance du soleil, mais dans l'hémisphère sud, à partir du 25 décembre, eh bien, le soleil a fini d'avancer, il se met à reculer comme le crabe, c'est-à-dire le cancer, et là, pour eux, ben, c'est à nouveau la dégradation de la lumière petit à petit. Dans l'hémisphère nord, donc, c'est la renaissance du soleil, la naissance d'un nouveau cycle solaire. Et dans les traditions anciennes, dans les traditions des païens, en fait, ce jour était célébré, donc, c'était ce jour de la naissance de leur dieu solaire. Et par exemple en Égypte, on célébrait Osiris, Horus. En Perse, Mithra. En Grèce, c'était Adonis ou Bacchus. Et en Occident, alors il faut savoir que les dieux solaires, dans toutes les théogonies, représentent la personnification des forces, des hiérarchies les plus spirituelles qui sont à l'œuvre au début d'une manifestation d'un univers. Quand un univers se réveille, qu'une manifestation se remet en route, la première manifestation, c'est ce réveil de ces hiérarchies les plus hautes. Et collectivement, ces hiérarchies sont appelées le père, généralement. Et la mère correspond à la nature passive, la nature terrestre aussi. Et dans les mythologies, on retrouve cette idée des demi-dieux qui sont les héros, des héros qui vont arriver à la stature du père et qui, par une série d'épreuves. Et quand ces demi-dieux, en fait, sont à la fois nés d'un père divin et à la fois d'une mère terrestre. Et c'est quand ils arrivent au niveau de la stature du père qu'ils deviennent des éveillés. Donc ça, c'est une chose qu'il faut qu'on se souvienne. Et Noël, pour nous, pour les chrétiens, eh bien évidemment, c'est la naissance de Jésus. Et Noël, il faut savoir que ce mot est apparu au XIIe siècle et c'est une évolution du mot Naël qui veut dire natalis en latin et ça veut dire jour de naissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le IVe siècle, Noël, la naissance de Jésus, était en général fêtée le jour de l'Épiphanie, c'est-à-dire au début du mois de janvier. Et en fait, si on se fie aux indices que l'on trouve dans les évangiles synoptiques, On va se rendre compte que Jésus, en fait, il est né soit à la fin du printemps, soit au début de l'été. Et c'est seulement donc au IVe siècle que le pape Jules Ier, a décidé que le jour de la naissance de Jésus serait fêté le 25 décembre. Alors on peut imaginer dans le contexte de l'époque où précisément la hiérarchie chrétienne voulait absolument imposer cette nouvelle religion au monde, eh bien on peut penser que ce choix du 25 décembre a été encouragé pour que soit transposé le culte des païens consacrés au jour du soleil sur le jour du Seigneur, sur le jour du Seigneur des chrétiens. Mais en fait, si on réfléchit bien, si on comprend bien les choses, si on va dans l'ésotérisme des choses, de cette idée de Noël, de naissance, de nativité, eh bien on se rendra compte que finalement, le choix du 25 décembre comme étant la date de naissance de Jésus est des plus heureux, mais à condition de transposer l'idée de Jésus au Christ, la naissance du principe christique dans Jésus. Et là, à ce moment-là, c'est un très bon choix parce que d'un point de vue analogique, c'est la naissance du soleil qui va gagner sur les ténèbres. Et dans le cas de Jésus-Christ, à part cet être qui était Jésus et qui a travaillé sur sa nature depuis peut-être des vies et des vies, eh bien voilà qui fait naître en lui le principe christique, le principe solaire, et il va l'épanouir. Et donc, en fait, la théosophie va nous montrer que toute l'histoire de Jésus va représenter quelque part les pérégrinations de l'âme réelle, c'est-à-dire d'un disciple qui va atteindre la stature d'un maître. Et donc, on peut dire que finalement, donc, ce 25 décembre est un choix vraiment des plus intéressants. Et parce qu'il symbolise bien ce principe christique qui naît dans l'individu à un moment donné. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a cette idée de cycle. Et dans cette idée de cycle, en fait, il faut voir que tout est cyclique, la nature, l'univers est cyclique, il apparaît à un moment donné. Et ces cycles correspondent à une grande vie, on va dire. Mais vie n'est pas le mot exact, il faudrait dire existence. Parce que la vie est éternelle. Simplement, la naissance et la mort sont les deux portes de la vie, mais deux portes qui donnent sur des états de conscience et de matière différents. Et donc, il faut voir que il y a donc des grands cycles comme la vie d'un univers, mais après, tous les constituants de l'univers sont soumis aussi à ces existences qui sont plus ou moins longues. Il y a l'existence d'un système solaire, bien évidemment, mais il y a aussi l'existence d'un homme, comme on l'a dit, et puis il y a l'existence de l'âme. Et l'existence de l'âme, eh bien, c'est tout un tas de réincarnations, d'incarnations, de vie, à un moment donné, d'existence à un moment donné, et puis après il y a l'assimilation de l'expérience, et puis voilà que l'âme petit à petit s'éveille. Et mais en fait, elle n'est pas éveillée à ce principe christique qui est en nous, comme on a parlé tout à l'heure de Jésus qui a réussi à éveiller ce principe. Ce principe, il est encore latent dans l'humanité. L'âme est un petit peu, on pourrait dire, en gestation encore. Il faut qu'elle arrive à ce point d'éveil. Parce que l'homme, avant qu'il soit à l'état d'homme, il est passé par toute l'expérience, en tout cas sa monade. Sa monade, c'est-à-dire ce qui est en lui, l'esprit et la matière, le plus pur, le plus spirituel, mais qui n'est pas encore éveillé à toutes ses potentialités latentes. C'est ce qu'on appelle Atma Buddhi en théosophie. C'est l'esprit et la substance. Esprit-substance sont les deux facettes d'une seule réalité. Et donc, quand ce rayon de conscience qui commence ses pérégrinations, il va commencer dans les règnes les plus inférieurs, dans les règnes les plus élémentales, comme ce qu'on appelle les règnes des élémentaux, et puis après, après avoir acquis toute la richesse de ces règnes, la monade va passer dans les règnes minéraux, les règnes végétaux, etc., jusqu'à l'état de l'homme. Et là, sa soi-conscience va être éveillée. C'est un état particulier à l'homme. Mais cette soi-conscience, elle est éveillée au niveau du monde physique, du monde dans lequel on est en train de jouer la scène, enfin la vie actuellement. Et en fait, elle n'est pas éveillée, la soi-conscience n'est pas éveillée sur le plan de l'âme, ce qu'on pourrait appeler le plan de l'âme, c'est-à-dire sur les plans psychospirituels. Donc, cet éveil n'est pas encore là chez nous. Mais par contre, pour un être qui a devancé le chemin, comme un Jésus, comme un Bouddha, un Krishna, ou comme les dieux solaires dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, à un moment donné, ce principe a été éveillé, et après, c'est pas parce qu'il est éveillé que voilà, ça y est, on devient un éveillé complet, pas du tout, parce que comme un enfant, eh bien, il y a, quand il s'éveille, il commence à prendre conscience du monde qui l'entoure et il devient petit à petit adulte. Et c'est pareil, Jésus, quand son principe s'est éveillé, il a fallu un certain temps avant qu'il s'épanouisse complètement et qu'il devienne un complet éveillé, comme un Bouddha d'ailleurs. Donc, il faut bien comprendre cette idée de cycle. Et ce qu'il faut voir aussi qui est important, c'est de faire une distinction entre cette existence, donc qui est périodique, dont on a parlé à propos des cycles, et ce qui est éternellement, parce que l'âme, elle est contemporaine avec l'univers, mais il y a en nous ce qui est éternellement, et ce qui est éternellement, c'est le perceveur, le témoin de l'expérience. Et ça, c'est immuable, c'est pas soumis à la mort, c'est pas... La conscience est éternelle. Mais après, il faut qu'on passe par toutes ces expériences de conscience pour arriver à se connaître nous-mêmes. C'est l'esprit qui apprend à se connaître lui-même et qui va finalement revenir en pleine conscience. Mais il va revenir dans la lumière, pour ainsi dire, mais jamais il pourra toucher la flamme. C'est pour ça que l'évolution est sans fin. Mais bon, il y a des stades, des degrés, et il y a un moment donné où ce principe sera éveillé dans tous les hommes. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, pour en revenir à cet initié, donc à Jésus, les initiés, parfois on les appelle les deux fois nés. Alors, deux fois nés, pourquoi? Parce qu'ils sont nés physiquement d'un père et d'une mère, comme tout le monde, et puis ils sont nés intérieurement, donc comme on l'a dit, ils s'éveillent sur leur nature intérieure, et là, ils vont continuer leur pérégrination. Et donc, on peut dire que Jésus a donné naissance donc au principe christique, à l'état de Bouddha, cette graine de bouddhéité que tout le monde a en lui-même, mais qui est encore complètement latente. Et donc, il y a une prophétie universelle qui datait d'une époque bien antérieure avant les chrétiens, qui dit qui promet le retour d'un âge d'or, lorsque précisément ce Christos, ce principe spirituel, régnera dans chaque mortel. Et en fait, cet âge d'or, eh bien, il doit arriver après que l'enfant annoncé soit né. Et donc, en fait, il faut savoir que, bien évidemment, lorsque cette lumière de bouddhéité sera éveillée dans chaque individu, c'est sûr que la terre sera un arbre de paix, d'amour, de fraternité, et toute la nature bénéficiera de cet état. Et en fait, donc on comprend bien que ce 25 décembre, c'est à la fois une allégorie théogonique, une allégorie métaphysique et une allégorie astronomique. Alors, d'un point de vue astronomique, bien évidemment, c'est l'annonciation que la graine va germer, parce que le printemps va arriver. Et donc, c'est la promesse de tout ce que la graine va pouvoir donner, de tout ce qu'on va pouvoir récolter après. Donc, mais il faut savoir que juste avant Noël, c'est donc la période la plus ténébreuse, comme là en ce moment, nous sommes début décembre, on arrive dans la période vraiment la plus ténébreuse. Et à Rome, il y a à l'époque romaine, donc il y a bien avant l'ère chrétienne, eh bien, était fêté ce qu'on appelait les Saturnales. Alors les Saturnales, c'est un culte qui est fait au dieu Saturne, et le dieu Saturne, c'est le dieu des semailles et de l'agriculture. Et donc, à cette période, était fêté à partir du 17 décembre jusqu'au 21 décembre, ces Saturnales, qui étaient la fête de la liberté et du monde à l'envers, quelque part. Parce que c'est les ténèbres étaient en train de gouverner le monde. Donc, les serviteurs devenaient des maîtres et les maîtres devenaient des serviteurs. Et vraiment, on pouvait faire n'importe quoi. Et ces Saturnales ont été encore fêtées jusqu'au Moyen-Âge. Et là, on les a appelées les fêtes du fou et les fêtes de l'âne. Alors ça, c'est très symbolique. C'est très symbolique parce que l'âne, c'est celui qui n'a pas la connaissance, c'est l'ignorant, et le fou, c'est celui qui fait n'importe quoi. Et il faut savoir qu'elles ont été interdites à cause de leur immoralité. Alors, ce qu'on peut dire d'un point de vue analogique, c'est que ça symbolise un petit peu l'état dans lequel on est actuellement, l'humanité est actuellement. Le principe christique n'est pas éveillé dans l'homme. Qu'est-ce qui commande l'homme? Finalement, on est dans une période ténébreuse et finalement, eh bien, c'est l'homme animal qui commande. Et le principe christique, le principe solaire dans l'homme, il n'est pas assis sur le trône, c'est le roi lui qui est assis sur le trône, c'est l'animal. Les choses sont à l'envers parce que quand on regarde comme ça, on voit que qu'est-ce qui commande en nous? Eh bien, nos désirs multiformes qui ne sont jamais rassasiés. Et puis, notre égoïsme, on est des êtres égoïstes et on est en constant conflit avec les autres, avec la nature. On n'écoute pas la lumière de notre nature supérieure. Elle ne peut pas percer les ténèbres de notre nature parce que, bon, voilà, la période est un peu comme ça. Alors, même si la période est comme ça, et d'ailleurs, il faut se souvenir que dans l'Inde, on dit que collectivement, nous sommes dans le Kali Yuga. Et le Kali Yuga doit durer 432 000 ans, et voilà, ça fait un peu plus de 5 000 ans qu'il a commencé. Donc c'est une période qui est vraiment annoncée comme étant ténébreuse. Donc aujourd'hui, on est bien dans la même note tonique que cette période collective qu'on a à traverser dans l'humanité. Mais c'est pas parce que on est dans une période noire comme ça que on va se laisser porter par la vague au risque de se retrouver brisé sur un récif quand le vent tournera en tempête. Il faut savoir que il y a des hommes qui se sont levés, des hommes qui ont décidé de prendre leur nature en main, ce sont les éveillés, on en a parlé tout à l'heure, Jésus, Bouddha, Krishna, mais ce sont aussi les maîtres de sagesse, dont il est parlé en théosophie, les Mahatmas, et n'oublions pas, et ces êtres, il faut savoir que ces êtres, eh bien, ils ont bravé les courants contraires, ils ont atteint l'autre rive, et là où précisément le soleil n'est jamais voilé, là où il n'y a aucune ombre, et ils en sont revenus pour nous montrer là le chemin. Et c'est Mahatma. Mahatma, ça veut dire grande âme. Mais nous sommes aussi une âme qui doit devenir grande. Et donc, il faut que nous, nous nous prenions en main parce que nous avons le libre arbitre et nous pouvons changer les choses. On n'est pas obligé de rester dans cette période ténébreuse. Il est possible que nous puissions nous lever, écouter notre nature spirituelle la plus haute, ou alors notre conscience la plus haute, de façon à préparer la naissance de ce principe qui doit naître en nous-mêmes. Donc ça, c'est une chose qui est possible. C'est, en tout cas, c'est ce qu'ont fait nos grands instructeurs, les grands instructeurs que l'on connaît dans l'humanité. Et si on voulait étudier, par exemple, l'histoire des dieux solaires dont on a parlé tout à l'heure, et en même temps l'histoire de ces grands instructeurs, on verrait qu'il y a des tas de similitudes, qu'il y a quelque chose qui veut dire qu'ils ont pris une voix sans doute pareille, qui a été exprimée peut-être différemment, racontée différemment. Et quand on prend simplement l'histoire de Jésus, Bouddha, Krishna, eh bien, on va voir qu'il y a énormément de choses qui sont communes dans leur histoire, dans leur légende. Par exemple, on voit que tous les trois sont issus d'une lignée royale. Alors, c'est pas très bien connu pour Jésus, mais si on lit Matthieu et Luc, eh bien, on va se rendre compte que Joseph, en fait, était issu de la lignée de David. Ensuite, ils ont tous un pourpère réel, une instance divine. Alors, pour Krishna, c'est Vishnu, bien évidemment. Pour Bouddha, c'est l'Adi Bouddha. Et pour Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, ils sont tous nés d'une mère vierge ou extrêmement pure, qui va enfanter leur enfant grâce à l'instance divine. Et leur naissance est annoncée. Elle est annoncée par l'ange Gabriel pour Jésus. Tous vont naître à l'heure de minuit. Alors minuit, là, c'est pareil. C'est un cycle particulier. C'est la fin d'un jour. C'est l'heure la plus ténébreuse, d'ailleurs, du cycle. C'est la fin d'un jour et la naissance d'un nouveau jour. Donc, c'est entre deux cycles. Là aussi, c'est très important. Et ensuite, leur vie est menacée. Alors, d'abord, pour Krishna, c'est un grand tyran donc, qui s'appelle Kansas, qui va faire tuer tous les enfants de l'âge de Krishna parce qu'il sait que l'un d'eux est né et qu'il va pouvoir le détrôner. Donc il ne veut pas de ça et il fait tuer, massacrer tous les enfants. Et c'est la même chose pour Hérode. Hérode va demander aux rois mages de leur indiquer où est l'enfant Jésus, mais les rois mages ne vont pas le dire à Hérode. Et du coup, il fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Ensuite, pour Bouddha, justement, eh bien, Bouddha, lui, c'est son père. C'est son père qui va l'enfermer dans le royaume parce que il y a un devin qui avait prédit qu'il serait soit un grand sage, soit un grand roi. Et bien évidemment, il veut que ce soit un grand roi. Alors, il va le faire enfermer dans le royaume, mais fatalement, un jour, les portes seront ouvertes et Bouddha pourra aller à l'extérieur et voir ce qui s'y passe. Ensuite, ils ont des tas de preuves à surmonter. Alors, Bouddha va devoir s'affronter à Mara, et donc sous l'arbre Bodhi. Ensuite, qui est un grand démon, la personnification de toutes les forces de la nature. Ensuite, Krishna, lui, devra s'affronter à Kansas, qui représente aussi toutes les forces ténébreuses de l'homme. Et quant à Jésus, eh bien lui, c'est durant sa traversée dans le désert qu'il sera face à un démon qui va le mettre en face de tout un tas d'épreuves. Et tous vont réussir. Et quand ils auront réussi, eh bien ils vont pouvoir enseigner. Et ils vont enseigner de façon différente aux foules et aux disciples. Ils auront un enseignement ésotérique pour les foules et un enseignement ésotérique pour leurs disciples. Ou alors ils vont s'exprimer en parabole. Il y aura deux significations, plusieurs significations. Et donc, tous aussi vont manifester des pouvoirs parapsychologiques qui vont être capables de chasser les démons, ils vont être capables de guérir les gens. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une similarité entre tous. Et tous vont donc avoir un enseignement, tous vont réformer la religion dans laquelle ils sont nés. Krishna va réformer la vision limitée des Védas qui promettent un salut personnel, et il va montrer la voie de l'union avec l'Esprit suprême. Alors que Bouddha, lui, il va mettre l'accent sur la souffrance et les moyens de s'en affranchir, et là aussi ce sera l'éveil, une voie d'éveil. Quant à Jésus, eh bien ça va être, il va montrer le chemin resserré, c'est-à-dire il va engager les gens à une vie intérieure pour chercher le Père qui est dans le secret et s'unir avec lui. Et entre ces trois réalisations, est-ce qu'il y a une différence? Eh bien non, il n'y a pas de différence du tout, parce que c'est vraiment la réalisation de l'âme réelle qui va s'unir à sa racine divine. Et donc on voit que c'est vraiment l'apogée de l'éveil d'une certaine façon. Alors, donc, il faut comprendre donc, que tout le récit de ces histoires, de ces légendes, de ces grands instructeurs de l'humanité comme des dieux solaires, des païens, eh bien, elle retrace tout, finalement, c'est le symbole, ils sont symbolisés par l'ascension de l'homme qui arrive à l'initiation finale et qui réussit d'ailleurs. Et en fait, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce principe christique qui s'éveille. Et là, l'être est loin de l'esprit, c'est-à-dire qu'il est en osmose avec la nature divine. Et cet état osmotique va lui conférer des pouvoirs spirituels. Et donc, il faut savoir que dans la langue ésotérique des mystères, en fait, il était parlé du Christos, qui voulait dire le purifié. Mais avant d'arriver à cet état, qui est un état identique au hiérophante, en fait, l'être, l'aspirant à la sagesse, était un Krestos. Et le mot Krestos veut dire « disciple en probation ». C'est celui qui a trouvé l'initiateur, mais qui va être soumis à tout un tas d'épreuves avant de pouvoir réussir à devenir un Christos. Et en fait, le mot Christos, en fait, c'est l'origine du mot chrétien. Mais les deux n'ont pas du tout la même signification. Dans les temples païens, cela renvoyait à un degré précis d'éveil, même si ce n'est pas un éveil complet, mais c'est un début. Alors que dans le christianisme, pour être chrétien, il suffisait d'être baptisé, donc ça faisait référence au baptême de l'eau. Mais le baptême de l'eau, dans les temples païens, correspondait à un degré donc précis de réalisation qui permettait donc à l'homme d'être initié et, après une série d'épreuves, arriver à devenir un Christos. Et donc, il faut bien comprendre qu'il faut faire une distinction donc entre Jésus qui est né physiquement et Jésus qui est né à l'état de Christos. Donc on comprend bien Jésus né physiquement, il est né d'un père et d'une mère physique. Et tandis que son éveil en état de Christos, c'est un état de réalisation intérieure qui l'amène après à être un initié, à être initié. Alors, dans l'évangile de Saint Jean, il est dit « en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème dira « ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc on voit bien qu'il y a une différence donc, de naissance, c'est pas la même naissance, hein. La naissance en tant que Christos et la naissance physique, ce sont deux naissances différentes. Bon, on fête Noël le 25 décembre, la naissance de Jésus, mais en fait il faudrait bien penser à Jésus en tant que Christ, donc ça change tout. Et on dirait bien que en fait, pour arriver à cet état d'éveil, hein, Il y a en fait trois naissances, pas deux mais trois. Alors la première, c'est comme on l'a dit, la naissance physique, comme tout le monde, peu importe le jour d'ailleurs, et puis la naissance spirituelle. Donc c'est la naissance qui est symbolisée par le 25 décembre. Et cette naissance spirituelle, eh bien, elle va, comme on l'a dit au terme d'épreuves, elle va aboutir à un épanouissement, donc à cette troisième naissance qui donne naissance au Christos complètement épanoui, hein, parce qu'au début, la lumière du Christos va pénétrer l'enceinte de matière, elle va éclairer le disciple sur toutes les noirceurs qu'il y a dans son âme, et puis après, il faudra qu'il s'identifie à l'humanité entière, il faudra qu'il lutte contre les démons qui animent l'humanité dans leur ensemble. C'est pour ça qu'il est face aux démons tels que Kansas ou tels que Mara. Donc, on voit qu'il y a cette troisième naissance. Et cette troisième naissance, eh bien, en fait, elle est symbolisée par la Pâque. Et la Pâque se situe à l'équinoxe du printemps. C'est le moment où les graines, ça y est, la graine a fini son travail de gestation et elle est prête à germer. Elle va donner naissance à une plante, ou alors c'est le moment où dans les plantes vivaces la sève va monter, ou alors le moment où les œufs dans les nids vont éclore. Enfin, toute la vie va arriver, et avec cette vie, eh bien, la promesse de la moisson et la promesse de tout ce que l'été va pouvoir nous apporter. Et dans le cas de l'éveillé, eh bien, c'est la promesse de son éveil complet en tant que Christos. Et donc, Pâques, c'est un terme qui vient de l'hébreu Pesha et qui veut dire passage. C'est le passage de la vie, plutôt de la mort apparente, à la vie réelle. C'est le passage de l'être qui n'est pas complètement éveillé et qui va s'éveiller en tant que une âme qui entre dans le monde spirituel. C'est le passage de la vie à l'immortalité. Le disciple qui arrive à atteindre l'état d'immortalité. Et c'est quoi l'état d'immortalité? On a dit tout à l'heure qu'on était une âme. Cette âme, en essence, elle est éternelle, effectivement, mais au niveau des états de conscience, il va falloir, comme on l'a dit tout à l'heure, déployer tout le potentiel qui est en nous pour s'approcher de la lumière, pour entrer dans la lumière. Donc, Pâques symbolise cet aboutissement des choses. C'est finalement l'aboutissement de Noël. Alors, il faut savoir, donc, on parle de ces grands, de ces initiés, mais que finalement, ce qu'on a dit, en fait, c'est valable pour tous les hommes, parce que la rédemption est possible pour tous les êtres humains, à condition qu'ils veuillent bien se prendre en main, commencer à se tourner vers la nature spirituelle, à essayer d'entendre quelque chose pour finalement préparer la naissance de ce principe spirituel qui est en nous, la préparer, et une fois qu'on la prépare, elle sera annoncée réellement. Alors, amis, en fait, c'est toute l'histoire donc, de Jésus, la crucifixion, tout ça, eh bien, elle symbolise l'initié qui crucifie définitivement son soi inférieur et qui devient donc une entité intérieure, soit consciente, complète, qui a gagné son immortalité. Alors, ami, donc le stade d'évolution de l'humanité tel qu'il est actuellement, eh bien, il est au point où les ténèbres menacent de prendre le dessus sur le principe christique, le principe Christos qui est en chacun de nous. Alors, on peut dire que Noël n'a pas encore sonné au grand cadran de l'humanité. Et c'est par les efforts de chacun qu'on va pouvoir changer les choses. Il faut donner la chance à ce Christos, à cette graine de bouddhéité que chacun porte au fond de son cœur. Il faut lui donner la chance de pouvoir germer. Parce que si on n'écoute pas tout ce que notre nature supérieure essaye de nous donner comme sagesse, eh bien, c'est comme si on crucifiait le Christos qui est en nous. Et on ne pourra jamais avancer sur cette voie. Donc, il ne faut pas incarner ce cruel Hérode en tuant dans l'œuf toutes les aspirations qui peuvent venir de notre principe supérieur, mais il faut essayer de préparer la naissance de l'homme nouveau. Et c'est comme ça que finalement on finira par faire en sorte que Noël s'annonce dans notre propre demeure.